Le médecin des pauvres, première partie, chapitre 9. Les portraits de famille. Après avoir prononcé le nom de la jeune fille qu'il aimait, Tristan de Champdivert s'attendait à quelque foudroyante explosion. Il s'attendait à voir son père, irrité et menaçant, entamer une scène violente. Il n'en fut rien. Au moment où Tristan murmurait le nom de Blanche, le vieux baron s'était levé péniblement et, s'appuyant d'un côté sur une longue canne de jonc à pomme d'or et de l'autre sur le bras de son fils, il avait entraîné ce dernier auprès du panneau de la tenture qui supportait l'arbre généalogique dont nous avons parlé et devant lequel ils s'arrêtèrent tous les deux. « Vous voyez ceci, monsieur mon fils, n'est-ce pas ? » demanda le vieillard en désignant le parchemin blasonné. « Sans doute, » répondit Tristan. « Vous savez quelles sont ces armes ?»« Les nôtres, mon père. »« Vous savez ce que représentent ces rameaux touffus, s'échappant d'un tronc majestueux ?»« Les alliances de notre famille. » »« Comment se fit-il donc, monsieur mon fils, que sachant tout cela, vous ignoriez d'une façon aussi complète l'histoire de cette même famille ?»« Mais, mon père, je croyais... »« Vous croyez mal, monsieur. »« Mais dans tous les cas... » Soit que vous n'ayez jamais su, soit que vous ayez oublié, je vais venir en aide à votre ignorance ou à vos souvenirs. Regardez ici, je vous prie. Je regarde. Que voyez-vous? Une petite tache rouge, peinte à côté de notre écusson, vers le milieu de l'arbre généalogique. Et là, une tache semblable. Et plus haut, d'autres taches encore. Combien en comptez-vous? Tristan garda le silence pendant un instant, puis il répondit. « J'en compte 10, mon père. »« Il y en a 10 en effet, mon fils. Toutes les 10 sont des taches de sang. Et maintenant, vous allez savoir comment ce sang a coulé. »« Comment ce sang a coulé ?» répéta Tristan. « Mais je le sais déjà, mon père. »« Peu importe, et je veux vous le redire. Écoutez donc, monsieur mon fils, et cette fois, souvenez-vous. » Tristan se tut et il baissa la tête avec une résignation douloureuse. Le vieillard poursuivit. En l'an de grâce 1442, Ludovic, comte de Mirbel, surnommé le sanglier noir à cause de sa figure repoussante et surtout à cause de la férocité de ses mœurs et de son caractère, devint amoureux d'une fille de notre maison, Bathilde de Champdivert, qu'on appelait la Rose Blanche. Il la demanda en mariage. Le baron, mon ancêtre, repoussa cette demande, et le sanglier noir furieux jura de se venger. Sa vengeance ne se fit point attendre. Un jour, tandis que le baron était à la chasse avec quelques autres seigneurs du bailliage, le sanglier noir, accompagné d'une poignée de ses hommes d'armes, pénétra dans ce château, enleva violemment Bathilde, l'emporta sur son cheval et la renvoya quelques heures après, flétrie, déshonorée, mourante. Bathilde avait deux frères. L'un était un homme fait, l'autre n'atteignait point encore les limites de l'adolescence. Le frère aîné, qui se nommait Tristan de Champdivert comme vous, appela sur le terrain l'infâme sanglier noir. Et malgré la justice divine et la bonté de sa cause, il fut tué par le misérable ravisseur. Cette tache rouge que vous voyez ici, cette tache, la première de toutes, indique la mort du frère de Bathilde. Quelques années se passèrent, le sanglier noir s'était marié et il avait eu un fils. Le jeune frère de la victime avait grandi de son côté et il était devenu un homme. Il se battit à son tour avec le sanglier noir et, plus heureux ou plus habile que son aîné, il sortit vainqueur du combat en laissant sa vaillante épée dans la poitrine du comte de Mirbel. La haine héréditaire ne s'endormit point dans l'âme des représentants de nos deux familles à la génération suivante. Le fils du sanglier noir se battit avec l'un des deux fils de celui qui avait tué son père. Hector de Champdivert succomba, et telle est l'origine de la deuxième tache rouge qui marque de son stigmate sanglant notre arbre généalogique. Nous ne suivrons pas plus longtemps le vieux baron dans le récit des combats et des vengeances qui se transmettaient de père en fils, comme un héritage de mort, dans la famille des Champdivert et dans celle des Mirbel. Cette narration, pleine d'un sinistre intérêt pour lui et pour Tristan, ne pourrait que fatiguer nos lecteurs si elle était prolongée outre mesure. Disons seulement que le vieillard s'animait en parlant, et que sa voix, calme d'abord et mesuré, arrivait peu à peu à une violence toute juvénile. Les rides profondes qui sillonnaient son visage semblaient disparaître comme par enchantement, et le feu de la haine et de la colère étincelait dans son regard. « Eh bien, monsieur mon fils, qu'avez-vous à répondre à cela ? » demanda-t-il quand il eut achevé. « Rien, mon père, si ce n'est que je ne comprends pas comment Mademoiselle Blanche, une enfant de 16 ans, pourrait vous sembler solidaire des dissensions fatales de ses ancêtres et des vôtres. « Eh ! » s'écria le baron avec colère et avec dédain, « qui vous parle de Mademoiselle de Mirbel ? Et comment se fit-il qu'après m'avoir écouté jusqu'au bout, son nom se retrouve sur vos lèvres ?»« Parce qu'il se retrouve dans mon cœur, » répondit Tristan avec une audacieuse fermeté. « Vous l'en arracherez, » répliqua le vieillard. « Jamais. Demandez-moi ma vie, je vous la donnerai. Mais ne me demandez pas le sacrifice de mon amour. Je vous le refuserai, mon père. » Le baron attacha sur son fils un regard mêlé de stupeur et d'indignation. Tristan ne baissa pas les yeux. Le vieillard poursuivit avec véhémence. « Vous parlez d'amour, baron de Champdivers ? Mais cet amour est honteux. Il est lâche. Il est déshonorant. »« Déshonorant, mon père ? » s'écria Tristan, dont les lèvres devenaient pâles. « Lâche et déshonorant, je le répète, monsieur. Car enfin, que prétendez-vous ? » « Épousez Mademoiselle de Mirbel. »« Quoi ? Donner votre nom à la petite fille du sanglier noir ? Cueillir un bouquet nuptial, arrosé 10 fois par le plus pur sang de vos ancêtres ? Éteindre dans des champs de noces le cri de vengeance et de haine que doit pousser tout homme de notre race à l'encontre de cette lignée maudite ? Est-il bien possible que ce soit là votre pensée ? » ?»« Oui, c'est ma pensée, mon père, car Mademoiselle de Mirbel est innocente du passé, et je l'aime. » « Ah ! » s'écria le vieillard dont les mains tremblaient convulsivement et dont les prunelles lançaient des éclairs. « Taisez-vous ! Taisez-vous ! Savez-vous bien qu'en ce moment vous me faites douter de la vertu de votre mère ? Savez-vous bien que je me demande si vous n'êtes pas le fruit criminel d'un amour adultère ? Car, de par Dieu, je le jure, un véritable Champdivers ne parlerait pas ainsi. « Mon père ! Mon père !» murmura Tristan d'une voix suppliante. « Taisez-vous ! » répéta le vieillard. « Taisez-vous et écoutez-moi. Votre nom est aussi le mien. Il est celui de 20 générations d'illustres gentilshommes qui l'ont noblement porté. Malgré vous et malgré tous, je dois le garder sans tache. Je ne dois permettre à personne et à mon fils moins qu'à tout autre de souiller notre fier blason. Au nom de mon autorité de père, au nom du droit sacré que je tiens de Dieu même, je vous défends donc, monsieur, de songer une heure de plus au misérable projet dont vous avez osé me parler. Je vous ordonne de quitter aujourd'hui même ce château et de retourner à votre régiment. Je vous ordonne d'oublier les rêves insensés de votre esprit malade. Et je vous jure, devant Dieu et devant vos ancêtres, que si vous me désobéissez, vivant je vous maudirai, et mort, je sortirai de mon tombeau pour vous maudire encore. » Après avoir ainsi parlé avec une énergie toujours croissante, le vieux baron, épuisé par les terribles émotions qui l'agitaient, se laissa retomber dans son fauteuil. Tristan, pâle comme un spectre et le visage décomposé, mit un genou en terre devant le vieillard en lui disant « Bénissez-moi, mon père, j'obéis et je pars. » Un éclair de joie vint illuminer les regards sombres du baron. « Ce que vous faites là est votre devoir, monsieur mon fils, » dit-il. « Vous êtes un enfant soumis. Allez, je vous bénis et je prie Dieu de vous protéger. » Tristan se releva. Il baisa la main défaillante de son père et il quitta l'appartement en murmurant, plutôt du cœur que des lèvres, « Si Dieu vous écoute et me protège, mon père, il me permettra de mourir bientôt. » 2 heures après ce moment, le jeune homme, ayant échangé contre des vêtements de voyage son uniforme de colonel, montait à cheval et s'éloignait du château. Mais avant de partir, il avait chargé un domestique sûr de remettre secrètement une lettre à Mademoiselle Blanche de Mirbel. Cette lettre ne contenait que ces mots. « Mademoiselle, une fatalité inexorable nous sépare. Je pars sans vous avoir revue, car si je vous revoyais, je n'aurais plus le triste courage de m'éloigner. Je pars, hélas, pour toujours. Oubliez-moi donc, mademoiselle, et soyez heureuse. Vous avez eu mon premier amour, vous aurez ma dernière pensée. Votre nom sera le seul que prononceront mes lèvres mourantes. Adieu, mademoiselle. Peut-être, désunis sur cette terre, nous retrouverons-nous un jour au ciel. Adieu encore. Adieu. C'est un mot suprême et consolant. C'est le seul qui me donne le courage d'attendre la mort, sans courir au-devant d'elle. Une année s'écoula. Au bout de cette année, le vieux baron de Champdivers s'éteignit, laissant à son fils son titre, son immense fortune, et mieux encore que tout cela, c'est-à-dire la liberté absolue de ses actions. Tristan, dont l'amour était plus vivace que jamais, se hâta de revenir en Franche-Comté. Un fait dont les conséquences devaient être terribles et incalculables s'était accompli pendant son absence. Le comte de Mirbel avait promis la main de sa fille au sire Antide de Montaigu, seigneur du château de l'Aigle et l'un des plus riches et des plus puissants gentilshommes du bailliage de Dôle. Les Montaigu, par leur alliance avec les Vaudrais, étaient les ennemis de tout ce qui portait le nom de Champdivers, car une chronique franc-comtoise racontait que jadis un sire de Champdivers avait tué de sa propre main un baron de Vaudrais dans la grande salle du château de l'Aigle. Néanmoins, Tristan, certain que Blanche l'aimait encore, demanda sa main au comte de Mirbel. Ce dernier répondit à Tristan par un refus, et comme ce refus désespérait Blanche, une scène à peu près semblable à celle que nous avons racontée dans les pages précédentes eut lieu entre le père et la fille. Mais pour combattre la résolution de son père, Blanche avait une arme plus puissante que les prières et que les larmes. Cette arme, c'était le chagrin, qui s'empara d'elle et qui ne tarda guère à manifester d'une façon visible les désordres qui l'amenaient dans l'organisation de la jeune fille. Blanche cessa de manger et de dormir. Elle ne se plaignait jamais, mais elle devenait si triste et si pâle qu'on eût dit qu'elle allait mourir. Et en effet, les sources mêmes de la vie étaient attaquées en elle. Le comte de Mirbel résista aussi longtemps que la résistance fut possible. Mais comme au fond il adorait son unique enfant, cette résistance ne put être de bien longue durée. La parole donnée au sire Antide de Montaigu fut redemandée, et Tristan, admis officiellement auprès de Blanche avec le titre de fiancé, dut croire que son bonheur était proche. Le comte de Mirbel avait fixé l'époque de l'union des deux amants. Tristan venait de partir pour Besançon, où il comptait faire l'acquisition de ses cadeaux de noces. Son absence ne dura qu'une semaine, et cependant elle fut trop longue encore. Quand il revint au château du Champdivers, il trouva toutes ses espérances brisées et réduites en cendres, comme un jeune arbre que le feu du ciel a frappé. Le comte de Mirbel était mort, assassiné, et Blanche avait disparu. L'avant-veille du jour où Tristan apprenait ce double malheur en mettant pied à terre, le comte et sa fille se promenaient à cheval dans la forêt, suivis à distance par un seul valet. Au détour d'un chemin creux que couronnait une double rangée de hêtres séculaires, ils avaient été entourés par une troupe de cavaliers revêtus de robes de moine et dont les capuchons rabattus cachaient les figures. Un homme de haute taille semblait commander les assaillants. Comme eux, il était vêtu d'un froc, mais le capuchon de ce froc retombait sur ses épaules. Cet homme portait un masque noir. Le sire de Mirbel avait mis l'épée à la main pour essayer une résistance impossible. Un coup de pistolet l'abattit. L'un des faux moines avait alors jeté Blanche évanouie dans les bras du masque noir, et les ravisseurs s'étaient éloignés au plus rapide galop de leurs chevaux, laissant derrière eux, comme trace terrible de leur passage, un cadavre dont la poussière du chemin buvait le sang qui coulait à flots. Tristan, désespéré, saisit d'une plainte le parlement de Dôle, et, devinant instinctivement l'axiome fondamental qui doit servir de base à toute instruction criminelle logiquement et consciencieusement faite, cherchait à qui le crime profite. Il accusait le sire de Montaigu de l'assassinat du père et de l'enlèvement de la fille. Aucune preuve matérielle ne venait chercher le puissant seigneur, mais les présomptions morales semblèrent assez fortes pour que le Parlement donnât assignation à Antide de Montaigu d'avoir à comparaître par devant lui afin d'expliquer sa conduite et de réduire à néant, si faire se pouvait, les soupçons qui planaient sur lui. Le fier gentilhomme n'osa résister ouvertement au premier pouvoir de la province. Il se rendit à l'assignation, mais avec une colère mal dissimulée et en prononçant des menaces d'implacable vengeance contre Tristan de Champdivers qui lui valait la honteuse nécessité d'approcher de ses lèvres cette coupe amère. Le Parlement, tandis qu'Antide de Montaigu se défendait devant lui avec une hauteur arrogante et presque insolente, ordonnait que des recherches fussent faites au château de l'Aigle. Le colonel Varose, l'un des plus chers amis de Tristan, fut chargé de diriger les perquisitions, qui d'ailleurs n'amenèrent aucun résultat. Le sire de Montaigu, reconnu publiquement innocent du meurtre et du rapt, revint dans ses terres, où il se cloîtra en quelque sorte pendant 2 ou 3 ans, pour laisser le temps de s'assoupir et de s'oublier à cette ténébreuse affaire qui avait fait dans les 3 bailliages un tapage effroyable. Il semblait avoir renoncé de la façon la plus complète à ses projets de vengeance hautement annoncés. On s'étonna d'abord de ce calme et de cette mansuétude, si peu en rapport avec le caractère bien connu du gentilhomme. Puis on cessa de s'en occuper. Il n'est pas de douleur morale qui, à la longue, ne s'émousse. L'âme de l'homme n'est point faite pour un éternel désespoir. Toute blessure cuisante au cœur fait croire à celui qui la reçoit qu'elle ne se fermera jamais. Puis les heures, les jours et les ans se mettent à courir, et chacun d'eux, en passant, apporte une goutte de baume à la plaie saignante qui se cicatrise peu à peu. Tristan de Champdivers subit la loi commune. Il commença par vouloir mourir, puis il se laissa vivre, puis l'amertume de son chagrin et de ses regrets se métamorphosa en une douce mélancolie. Enfin, un jour, il se dit qu'il devait à sa race de ne point laisser périr en sa personne le beau nom de ses ancêtres, dont il était l'unique représentant. Et 3 années après la disparition de Blanche de Mirbel, il épousait une noble et charmante jeune fille qui s'appelait Odette de Vaubécourt. Les suites de cette union ne furent point heureuses. Au bout de 11 mois de mariage, la nouvelle baronne de Champdivers mourut en mettant au monde un enfant mâle qui reçut au baptême le nom de Raoul. La main de Dieu semblait s'apesantir sur Tristan. 2 années s'écoulèrent. Pendant une nuit orageuse, un incendie subit et impétueux se déclara dans les principaux bâtiments du château de Champdivers. Plusieurs domestiques périrent en s'efforçant vainement d'arrêter les incompréhensibles progrès des flammes qui surgissaient de tous les côtés à la fois. Au jour naissant, le manoir n'était plus qu'un monceau de ruines fumantes, au milieu desquelles restait enseveli sans doute le cadavre du père et celui de l'enfant. La race des Champdivers était désormais une race morte. On supposa dans le pays, car enfin il fallait bien trouver une raison plausible pour expliquer une aussi foudroyante catastrophe, que le tonnerre était tombé sur le château dans 2 ou 3 endroits à la fois. Et la rumeur populaire affirme, on le sait, que les incendies ainsi allumés ne se peuvent éteindre. L'opinion publique accepta cette explication comme suffisante, et d'autres préoccupations ne tardèrent point à effacer le souvenir de ces événements sinistres. Le médecin des pauvres, chapitre 10. Raoul et l'accusant. Raoul en était arrivé à ce même endroit de son récit où nous venons de nous arrêter nous-mêmes. « Ah ! S'écria l'accusant, je comprends maintenant. C'est au sire Antide de Montaigu que vous attribuez l'incendie du château de Champdivers et le meurtre du baron Tristan. » Et selon vous, en commettant ce double crime, il accomplissait une double vengeance. « Oui, répondit le jeune homme, j'accuse le sire de Montaigu. Je l'accuse de meurtre et d'incendie, comme mon père l'avait accusé de rapt et d'assassinat. Et quand vous m'aurez entendu jusqu'au bout, vous l'accuserez comme moi, et comme moi vous avouerez que plus d'un scélérat, attaché au gibet par la main du bourreau, mérite moins cette mort infamante que ce misérable gentilhomme. Continuez. Dit simplement l'accusant. Raoul reprit. La veille de ce jour, ou plutôt de cette nuit maudite, l'intendant de mon père, ce Marcel Clément dont je vous ai déjà parlé, revenant dans la soirée d'un hameau voisin où il avait été visiter quelques domaines, vit de loin un des plus subalternes parmi les domestiques du château causer longuement avec un individu de mine suspecte et qui le quitta en lui mettant dans la main un objet qui devait être un rouleau d'argent ou une bourse. Marcel appela ce domestique et le questionna. Le valet refusa de s'expliquer et répondit avec insolence. Marcel lui déclara que dès le lendemain matin, il serait payé et congédié. « Demain il fera jour, » répliqua le valet en ricanant. « Il y a dans la province d'autres châteaux que celui-ci. 1 mètre de perdu, 10 de retrouvé. » Marcel n'attacha malheureusement aucune importance à ces paroles, qui, sous leur grossière vulgarité, renfermait un défi et une menace. Si le domestique avait été chassé sur l'heure, les assassins incendiaires auraient trouvé fermée une porte qu'ils comptaient trouver ouverte. Et par cette porte ouverte allait entrer le crime et le malheur. Au milieu de la nuit, Marcel, que les grondements du tonnerre empêchaient de dormir, vit tout à coup une lueur rouge et sinistre éclairer les ténèbres. En même temps, une épaisse et suffocante fumée envahissait sa chambre. Dans le premier moment, il se figura que la foudre était tombée sur le château, et il courut à sa fenêtre. Trois ou quatre hommes masqués, tenant d'une main une épée et de l'autre une torche, gardaient la grande entrée de la cour d'honneur. D'autres hommes, également masqués, bondissaient comme des démons dans les corridors du château, en secouant leurs torches. L'incendie éclatait de toutes parts. Marcel était un serviteur loyal et brave. Il était né dans la maison. Il faisait en quelque sorte partie de la famille. Il aurait donné sa vie pour mon père. Il s'habilla rapidement. Il mit un couteau de chasse et des pistolets à sa ceinture, et il descendit en toute hâte par un escalier dérobé communiquant avec l'appartement du baron de Champdivert. Au moment de soulever la portière en tapisserie qui masquait une des portes de la chambre à coucher, il entendit une voix qui le fit tressaillir. Une voix qu'il connaissait bien. La voix du sire Antide de Montaigu s'écriait avec un accent de joie farouche. « Le loup est muselé. Cherchez le louveteau maintenant. Coupez-lui la gorge et jetez-le au milieu de l'incendie. Le feu partout. Je veux que demain matin il ne reste pas pierre sur pierre de ce château maudit. » Des voix tumultueuses répondirent. Puis le silence se rétablit et des pas nombreux s'éloignèrent. Marcel souleva la tapisserie et il entra. On avait attaché le feu aux rideaux, aux tentures, aux meubles. La chambre tout entière flamboyait. Marcel courut au lit de mon père. Ce lit était vide et ensanglanté. « Ils l'ont assassiné, » murmura le digne intendant avec désespoir. « Mais du moins je sauverai son fils et la fortune de ce fils. » Avec la pointe de son couteau de chasse, Marcel força la serrure d'un meuble enflammé déjà et qui renfermait différents objets dont il connaissait l'inestimable valeur. Dans ce meuble, il prit un coffret d'acier et, chargé de ce coffret, il gagna, par des passages connus de lui seul, la chambre où je dormais dans mon berceau et où les meurtriers n'étaient pas encore parvenus. Il me saisit tout enveloppé dans mes draps. Puis, comme on entendait un bruit de pas qui se rapprochait rapidement, il s'élança dans le parc par la fenêtre, depuis le premier étage, et en tombant sur le sol, il se foula le pied gauche. Malgré la très vive douleur que lui faisait ressentir cette foulure, il eut le courage de se traîner, avec son double fardeau, jusqu'à un massif d'arbres très touffus qui se trouvait au milieu d'une pelouse, à 200 ou 300 pas du château. Là, il attendit. L'incendie grandissait. Activé par le souffle impétueux de la tempête, il envoyait ses gerbes de flammes jusqu'au ciel, devenues couleur de sang. Et il éclairait au loin le parc et la campagne, de clarté aussi vive que celle du soleil. Tout à coup, sur ces masses étincelantes, se détacha la silhouette d'un cavalier de haute taille, monté sur un cheval magnifique et portant un masque noir. « Vous entendez, capitaine? Un masque noir !» Ce cavalier arrêta sa monture, fit face à l'incendie et cria d'une voix retentissante « Eh bien, Tristan de Champdivert, qu'en dis-tu ? « Porteras-tu plainte cette fois à nos seigneurs du Parlement de Dôle ?» Puis mettant son cheval au galop, il tourna le château et disparut. Cet homme, malgré son masque, Marcel Clément l'avait reconnu. Non seulement à sa voix, mais encore à sa taille, à son geste, à son attitude. C'était Antide de Montaigu. C'était l'homme au masque noir. C'était le meurtrier du comte de Mirbel. C'était le ravisseur de Blanche. C'était l'assassin de mon père. Il me reste maintenant bien peu de choses à ajouter, capitaine. Un danger effroyable me menaçait. Mon nom équivalait à une sentence de mort. Si le sire de Montaigu venait à apprendre mon existence, j'étais perdu. Marcel Clément le comprit si bien que c'est alors qu'il prit le parti de me cacher à moi-même ma véritable origine. Il m'emmena en France. Il me fit passer pour son fils et il me persuada que j'étais français. Le coffret d'acier, sauvé en même temps que moi, par ce modèle des intendants, contenait tous les papiers établissant les titres et la filiation de ma maison et constatant ma propre naissance. Il renfermait en outre la totalité des diamants de famille des Champdivert, c'est-à-dire une fortune de près d'1 million. Marcel me fit élever comme un gentilhomme, et quand j'eus atteint l'âge de 18 ans, il m'acheta une compagnie. Je continuai à le regarder comme mon père. Enfin, l'an passé, au moment où mon régiment était désigné pour venir mettre le siège de Vandôle, Marcel, ne voulant pas m'exposer à combattre mes compatriotes, me révéla le secret de ma naissance, me raconta ce que je viens de vous répéter, et me remit tous les papiers qui prouvaient la vérité de ses paroles. En ajoutant que Dieu lui-même avait voulu sans doute imprimer sur mon front le sceau irrécusable de mon origine, en me donnant une si complète ressemblance avec mon père, que quiconque a connu jadis Tristan de Champdivers croira le revoir en me voyant. Après avoir accompli de cette façon la dernière partie de la tâche qu'il s'était imposée, le digne serviteur, parvenu déjà à un âge très avancé, s'éteignit doucement, heureux de se dire que je reprendrai un jour le nom et le rang de mes ancêtres. J'ai mis sous vos yeux l'histoire de ma vie, capitaine. Vous savez tout. Il ne me reste qu'à vous répéter ce que je vous disais en commençant mon récit. Suis-je un impudent aventurier ou suis-je un vrai gentilhomme? Prononcez. L'accusant tendit la main à Raoul. Baron de Champdivers, lui dit-il, soyez le bienvenu dans nos libres montagnes. La Franche-Comté, qui fut votre berceau, vous salue par ma voix et vous accueille comme un de ses plus précieux enfants. Je compte sur vous, Raoul de Champdivers. Je compte que vous marcherez sur les traces héroïques de ce Réginald, votre aïeul, qui combattit jadis, à la tête de ses vassaux armés, les soldats du roi Henri IV, et qui sortit vainqueur de la lutte. « Merci, capitaine, répondit le jeune homme avec enthousiasme. Je serai digne de votre confiance et du nom que je porte. Avez-vous officiellement cessé de faire partie de l'armée française? Oui, depuis près d'un mois déjà, j'ai remis mon épée et mon commandement entre les mains de monsieur de Villeroy. C'est bien, l'apparence même de la trahison doit être évitée. Maintenant, j'ai une question à vous adresser. Parlez, capitaine, quoi que ce soit qu'il vous plaise de me demander, je suis prêt à vous répondre. Comment avez-vous connu Églantine? Il y a un an, je vous l'ai dit, je suis venu en Franche-Comté à la suite de l'armée française. J'assistais au blocus de Dôle. Le marquis de Villeroy, qui m'avait attaché à sa personne comme l'un de ses officiers d'ordonnance, me chargeait parfois de porter des ordres aux corps de troupes, disséminés dans la campagne et dans la forêt de Chaux. Le hasard me conduisit un jour à la porte de la maison qu'habitaient votre oncle et votre cousine. Je vis Églantine. Je l'aimais. Il fallait au vieillard et à la jeune fille un protecteur contre les insultes et les agressions d'une soldatesque qui se croyait tout permis en pays ennemi. Je devins ce protecteur. J'eus le bonheur de rendre quelques services à votre oncle, qui, je le crois, ressentit un peu d'affection pour moi et m'accueillit comme un fils. Ce fut là un temps heureux. Églantine me parlait sans cesse de vous. Elle me racontait votre courage, vos exploits, votre générosité chevaleresque. Elle faisait naître dans mon cœur un ardent désir de vous connaître et de devenir votre ami. Le jour de la séparation arriva. Il me fallut suivre mon général qui rentrait en France. Ce jour-là, Églantine me dit « Quand vous reviendrez, si notre maison est déserte, allez dans la montagne. Cherchez et trouvez le capitaine Lacuzon, mon cousin, mon ami, mon frère. Ayez confiance en lui. Ne lui cachez rien. Il m'aime trop pour ne pas vous aimer. Il vous conduira auprès de moi. » Je partis. Lorsque je revins, il y a de cela quelques jours, la maison était vide. Je me souvins des paroles d'Églantine. Le bruit public m'apprit que vous étiez à Saint-Claude, et j'allais vous y chercher quand je vous ai rencontré à Longchaumois. Comment se fit-il, demanda l'accusant, que mon oncle ni sa fille ne m'aient parlé de vous? Mon Dieu! S'écria Raoul. M'aurait-elle oublié? Non, répliqua le capitaine. Quand un cœur comme celui d'Églantine, c'est une fois donné, il ne se reprend pas. Seulement, mon oncle et ma cousine, qui vous croyaient français, n'auront point voulu m'avouer qu'ils avaient un français pour ami. Il y eut un instant de silence, puis l'accusant murmura. Tout ceci m'inquiète, Raoul. Avez-vous bien réfléchi? Vous êtes riche et vous êtes noble. Églantine est une pauvre fille sans naissance et sans fortune. Où cet amour vous conduira-t-il? Je ne comprends guère votre question, capitaine, répondit vivement Raoul. où cet amour me conduira? Mais par Dieu, tout simplement à faire d'Églantine une baronne de champs d'hiver, si vous ne me jugez point indigne de votre alliance. Ainsi, vous me demandez la main de ma cousine? Positivement, et je la demanderai de même à son père aujourd'hui, si je le vois aujourd'hui. Demain, si je ne le vois que demain. À partir de ce moment, Raoul, dit le capitaine avec émotion, vous êtes mon frère. Vous voulez savoir où est Églantine? Je vais vous la prendre. Elle est à Saint-Claude, cachée, et sans doute au moment où je vous parle, elle se prosterne aux pieds d'un crucifix, qu'elle baigne de ses larmes, en priant Dieu de sauver son père qui doit mourir demain. Mourir? Répéta Raoul avec stupeur. De qui parlez-vous? Qui doit mourir? Pierre Prost. Mourir? Répéta le jeune homme pour la seconde fois. Mais pourquoi mourir? Est-il blessé? Est-il si dangereusement malade qu'on désespère de le sauver et qu'on en soit à compter les heures? Il n'est ni blessé ni malade. Il est prisonnier. Il est condamné. Condamné? Pour quel crime et par quel tribunal? Vous savez que depuis 2 jours, le sire de Guébriant est maître de Saint-Claude avec ses Suédois. Oui, je l'ai appris à Champagnole. La ville, démantelée et surprise à l'improviste, n'a pu se défendre. Elle a été mise à sac. Un grand nombre de généreux citoyens ont payé de leur vie une inutile résistance. D'autres ont été jetés en prison. Pierre Prost, mon oncle, se trouve au nombre de ces derniers. Il a été arrêté comme espion, lui, la loyauté même. Il est enchaîné dans une des oubliettes du couvent. Et au point du jour, on le traînera au supplice. Ah ! S'écria Raoul, ils n'oseront pas ! L'accusant haussa les épaules. Ils oseront tout, répliqua-t-il. Le bûcher est déjà construit sur la place Louis XI. Personne ne croit à l'absurde accusation d'espionnage mise en avant comme prétexte. On veut que mon oncle meure, précisément parce qu'il est mon parent, et qu'on espère intimider les montagnards par cette mort. Mais c'est infâme, cela, balbutia Raoul. Oui, certes, cela est infâme. Seulement, de la prison au bûcher. Il y a peut-être plus loin qu'on ne pense. Espérez-vous donc sauver Pierre Prost? Eh, si je ne l'espérais pas, croyez-vous que je serais aussi calme? Oui, par Dieu, j'espère. Ne suis-je pas toujours là quand il faut sauver un innocent et servir une sainte cause? Peut-être puis-je vous venir en aide? Vous, Raoul? Oui, moi? Sinon le baron Franc-Comtois Raoul de Champdivers, du moins l'officier François Raoul Clément? Et de quelle façon? J'ai vu souvent le comte de Guébriant chez le marquis de Villeroy. Je suis connu de lui. Il ignore que j'ai cessé d'appartenir à l'armée dont il est l'allié. Il sait que mon général me témoignait quelque bienveillance. Et sans doute, il accorderait à ma prière la grâce du père d'Églantine. Une grâce? S'écria l'accusant avec impétuosité. Solliciter une grâce? Prier? Supplier? Courber la tête devant un Suédois? Non, non, Raoul, point de grâce à ce prix. Mon oncle trouverait lui-même que c'est acheter trop cher la vie. D'ailleurs, ce n'est pas sur des prières que je compte. J'ai mieux que cela. Que voulez-vous donc faire? Vous verrez. Il se fit un nouveau silence. Les deux cavaliers avaient atteint un point élevé d'où se déroulait devant eux un magnifique panorama que les clartés pâles de la lune éclairaient d'une lueur indécise. Déjà s'entr'ouvrait à leurs yeux la vallée dans laquelle est bâtie la ville de Saint-Claude. À l'horizon se dessinaient les énormes sapins couronnant des rochers gigantesques et commençant cette muraille de sombre verdure qui monte des bords de la Bienne jusqu'au sommet de 7 Moncelles. La route dans laquelle les voyageurs allaient s'engager formait de brusques zigzags le long de la côte de Saint-Quétral. Au fond de la vallée, la ville se détachait comme une masse noire. Raoul, demanda l'accusant tout à coup, quand comptez-vous reprendre le nom de vos ancêtres? Quand j'aurai vengé mon père, répondit le jeune homme, quand le meurtrier incendiaire m'aura payé la dette du sang et de l'incendie. Je m'attendais à cette réponse. Et qui poursuivrez-vous de votre vengeance? Qui? Répéta Raoul avec étonnement. Et qui serait-ce sinon le lâche auteur de tant de crimes? L'infâme Antide de Montaigu? Je porterai le fer et le feu dans son château de l'Aigle, et vous me viendrez en aide, n'est-ce pas mon frère? Car en agissant ainsi que je veux le faire, j'accomplirai un devoir sacré. L'accusant secoua la tête. « Raoul, dit-il, je veux et je dois répondre à votre confiance par une confiance égale et ne vous rien cacher. Je donnerai ma vie s'il le fallait pour sauver la vôtre, mais vous ne devez pas compter sur moi quand vous songez à vous venger d'Antide de Montaigu. Bien plus, je me mettrai avec lui contre vous, sinon pour vous attaquer, au moins pour le défendre. »
« Contre moi, frère ? Contre moi, avec cet homme ?» s'écria Raoul. « Ce n'est pas possible !»
Et cependant, c'est la vérité.
« Mais pourquoi ?»
Parce que quand le péril commun plane sur toutes les têtes, les dissentiments et les haines de particuliers, si terribles qu'en soient les motifs, doivent être oubliés. Parce qu'il ne peut point y avoir d'ennemis parmi ceux qui servent une même cause, aussi longtemps du moins que cette cause est en danger. Parce qu'enfin, aujourd'hui, Antide de Montaigu, seigneur de l'Aigle, est l'un des plus ardents et des plus puissants défenseurs des libertés franc-comtoises. C'est parmi ses vassaux que je recrute mes corps francs. C'est lui qui, lorsque tout nous manque, nous fournit de l'argent, des vivres et des armes. C'est lui qui nourrit et protège la mère, la sœur ou la fille du paysan soldat. C'est au château de l'Aigle, enfin, que se trouve le centre des opérations militaires de toute la haute montagne. Vous le voyez, Raoul, les services que nous rend Antide de Montaigu sont immenses, et si coupable que soit ce gentilhomme envers votre race, il doit être sacré pour moi.
« Je vous comprends, et je vous approuve, » répondit Raoul. « J'attendrai
avec calme et patience, et peut-être cette attente ne sera-t-elle pas bien longue. Un jour viendra, frère, où vous m'abandonnerez cet homme, et où vous unirez à moi pour le renverser. Car Dieu ne serait pas juste s'il permettait que le ravisseur, l'incendiaire, le meurtrier, fut un allié loyal et fidèle. Souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui, capitaine. Un secret instinct me crie qu'Antide de Montaigu est un lâche et un traître. Et souvenez-vous qu'un jour, ce que je dis, je le prouverai. »
L'accusant garda le silence. Il ne savait que répondre à ces paroles pleines d'une écrasante et impitoyable logique. Et il lui semblait douteux, en effet, que Dieu consentît à se servir d'une main si bassement coupable pour faire de grandes et nobles choses. En ce moment, les deux cavaliers arrivaient au bord de la Bienne, qui coulait dans le fond de la vallée, à une très faible distance des fortifications de Saint-Claude. L'accusant poussa son cheval vers la gauche, laissant la ville à sa droite, et il ne tarda guère à gagner la lisière d'un petit bois très épais dans lequel il s'engagea, suivi de Raoul. À peine avait-il fait 25 pas sous le couvert qu'ils entendirent le craquement sec et métallique produit par la batterie d'un mousquet que l'on arme. En même temps, une voix cria «
Qui va là ?»«
Saint-Claude et l'accusant, » répondit le capitaine.